16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, cette émission d'histoire où, sur le principe d'amicalement vôtre, un type élégant et cultivé fait équipe avec un loubard mal dégrossi. Principe pour lequel j'avais dit ok, mais choisissez bien le loubard. J'ai pas été déçu. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Heureusement, votre culture est contagieuse et je progresse chaque jour à vos côtés. Aujourd'hui, on réunit comme d'habitude trois personnages différents, mais qui avaient un point commun qui se résume en un mot: Rimbaud. À l'occasion des 130 ans de la disparition du poète maudit qu'on commémore aujourd'hui, je sais pour la plupart ça vous avait échappé, on réunit trois figures de l'histoire fascinées par Rimbaud. À commencer par un autre poète qui, comme lui, savait manier les mots, Paul Claudel, dont deux hommes se sont mis sur sa route et ont occupé son esprit durant toute sa vie, Dieu et Rimbaud. Oui, oui. Puis lui, c'est à travers ses chansons et les reprises de ses mots qu'il lui a redonné vie. Je vous raconte un chanteur avant-gardiste qui a été puisé dans le passé, et notamment dans celui de Rimbaud, c'est Léo Ferré. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une fan de Rimbaud, chanteuse aussi, mais plus récente et plus rock je crois aussi.
Oh, plus rock que Léo Ferré, oui, je vous raconte le destin de Patti Smith. Patti Smith, dont je sais Stéphane que vous connaissez moins les chansons que celles de Nana Mouskouri, mais c'est dommage.
Je la connais bien.
C'est vrai ?
Ah oui, et je l'ai même rencontré plusieurs fois, Patti Smith.
Vous aimez son
j'adore
répertoire.
J'adore Patti Smith.
Le grand écart musical.
Marianne Faithfull, toutes ces chanteuses incroyables.
À vos côtés Stéphane, elle est indéniablement la plus rock'n'roll des historiennes.
Mais elle est surtout alcoolique depuis l'adolescence.
Oui, voici Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine. Oui. Vous nous entrez dans l'intimité des grandes ce monde.
C'est tout à fait moi. Bonjour messieurs. Bah oui, écoutez, Léo Ferré, Patti Smith étaient peut-être fascinés par Rimbaud, mais son propre père, Frédéric Rimbaud, et sa mère, Vitalie Cuif, aussi inflexible que 75 administrations à casquette de plomb, la formule est de Rimbaud, ne partageaient pas forcément cette fascination. Donc aujourd'hui, je vais vous parler famille, Rimbaud et ses parents. Voici mon thème du jour.
Très bien, avec nous également. Il remonte aux origines de notre quotidien, c'est David Castello-Lopez. Bonjour David.
Bonjour David. Aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer les origines de quoi je vais faire.
La phrase était compliquée.
Non, vous savez, on passe quand même beaucoup de fois les mêmes disques à la radio,
oui,
les mêmes chansons.
C'est pour que ça rentre dans le cerveau.
Exactement. Et en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a un moment où c'était pas du tout comme ça, où il fallait jamais, enfin il fallait, on pouvait le faire, mais en fait qu'il fallait faire très attention à ne pas passer le même disque. Et il y a eu un changement. Et moi je vais vous parler de l'origine de ce changement qu'on appelle donc un peu la rotation des disques.
Avec nous également Olivier Pouls. Il remonte aux origines d'une recette, d'un mets, d'un plat. Je le vois avec deux fioles.
Eh bien je vais vous parler du rhum aujourd'hui.
Ah oui. Et du rhum blanc.
Et je vous en ai apporté.
On dirait de l'alcool à 90 de loin. Vu la taille des fioles, c'est étonnant.
Le rhum blanc, c'est de l'alcool, alors pas à 90, mais c'est de l'alcool distillé quand même. Hein.
Oui.
Donc ça, si vous êtes prêts pour tout à l'heure, une petite.
Avec
ça,
grande
c'est
modération.
Pour ça,
avec
il beaucoup a de modération. Du liquide désinfectant, et en fait, c'est du rhum.
Oui,
hein,
oui c'est ça, mais on désinfecte l'intérieur.
Il y en a qui l'ont bu pendant le confinement.
Oui. Enfin, ne manquez pas aux alentours de 5h-10 cette rubrique qui s'insère à merveille dans notre thématique du jour, puisque Clémentine et Stéphane, qui s'affrontent dans un quiz de culture générale, c'est toujours un poème. Burn to be alive, titre alternatif, une saison en enfer. Ce sera l'apothéose de cette première heure. Mais tout de suite, Rimbaud a eu plusieurs illuminations. Lui en a eu une. Pour lui, comme pour beaucoup, Rimbaud est un génie qui va l'accompagner toute sa vie. Stéphane Bern nous raconte Paul Claudel, un poète fasciné par un autre poète.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes à Paris en 1886. Par une belle journée de printemps, le jeune Paul Claudel, tout juste 18 ans, se promène le long des quais de Seine. Comme à son habitude, il s'attarde un instant devant l'étal débordant des bouquinistes à la recherche d'une lecture inédite. Et ce jour-là, c'est avec une toute nouvelle revue littéraire sous le bras que l'étudiant en sciences politiques repart satisfait. Dans les colonnes de la Vogue, Paul Claudel entend étancher sa soif de vers. La poésie, il en est féru. Il en écrit même depuis ses 13 ans. Après sa traversée quotidienne du quartier latin, le voilà qui pousse la porte cochère du 31 boulevard du Port-Royal pour grimper les 6 étages qui le séparent de l'appartement familial. Cela fait près de 5 ans que les Claudel ont élu domicile à Paris après avoir quitté Villeneuve-sur-Fère, le village de l'Aisne où Paul a vu le jour. Le jeune homme salue sa mère, qui ne se départit pas de sa froideur habituelle, et sa sœur aînée Camille, 22 ans, sculptrice de talent, qui est aussi l'amante et la muse d'un certain Auguste Rodin. Il s'enferme dans sa chambre pour enfin se plonger dans sa revue. En tournant les pages, Paul s'intéresse à la prose d'un poète qu'il ne connaît pas, un certain Arthur Rimbaud. Dès les premiers vers, Paul Claudel n'en revient pas. C'est comme si quelqu'un enfin comprenait le monde comme lui, comme s'il n'était plus seul. Les mots de Rimbaud, sa poésie fulgurante, tout résonne en lui. Seul garçon dans une fratrie qui compte deux filles, Paul a trouvé un frère spirituel. Les illuminations, une saison en enfer, il dévore la prose rimbaldienne. À travers les murs de leur chambre contiguë, Camille entend son frère réciter nuit et jour des strophes entières de son nouveau maître à penser. Sur la mer que j'aimais, comme si elle eût dû me laver d'une souillure, je voyais se lever la croix consolatrice. J'avais été damné par l'arc-en-ciel. Le bonheur était ma fatalité, mon remords, mon ver. Ma vie serait toujours trop immense pour être dévouée à la force et à la beauté. Paul Claudel vit un véritable coup de foudre avec Arthur Rimbaud. Coup de foudre qui va lui en insuffler un second quelques mois plus tard. Le soir de Noël, accablé par l'ambiance morose qui règne dans la famille, un père absent, une mère insensible et une sœur maudite, Paul Claudel enfile son manteau et sort dans la nuit glaciale. C'est pas le guide vers l'île de la cité où les deux tours de Notre-Dame se dressent vers le ciel étoilé. Paul Claudel s'engouffre dans la cathédrale à la recherche d'un peu de chaleur. La messe a commencé. Il s'installe, écoute les vêpres, bâille un peu, il n'a pas tellement la foi, cette famille. Mais à l'instant précis où les enfants de chœur commencent à entonner le chant du Magnificat, la poitrine du jeune homme se serre et les larmes le gagnent. Paul Claudel vit là sa deuxième révélation de l'année. Désormais, seuls deux êtres le guident. L'un est dans les cieux, c'est Dieu. L'autre est fait de chair, c'est Arthur Rimbaud. Bien des années plus tard, Paul Claudel écrit dans une lettre « C'est à Rimbaud que je dois humainement mon retour à la foi. D'ailleurs, cette foi est si forte que l'étudiant songe même un temps à devenir moine. » En cette année 1886, quand Paul Claudel le découvre pour ne jamais l'oublier, Arthur Rimbaud se trouve au Shoah, à une province de l'actuelle Éthiopie. Il a 32 ans et depuis 12 ans déjà, il a renoncé à la littérature. Ses chefs-d'œuvre comme Le bateau ivre ou Le dormeur du Val, il les a rédigés alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Tour à tour poète, amant de Paul Verlaine, explorateur, négociant et marchand de café et d'armes, Rimbaud a parcouru la planète et vécu 1000 vies. Son existence s'arrête en 1891 dans un hôpital de Marseille après qu'une douleur au genou se soit transformée en maladie incurable. Peu de temps avant, Paul Claudel est reçu premier au concours des affaires étrangères et entame une carrière de diplomate. La journée, il s'affaire à la tâche dans les bureaux du Quai d'Orsay. Le soir, dans son appartement, il brandit sa plume et noircit des pages et des pages. Comme son poète favori, il manie le verbe et, comme lui encore, Paul Claudel parcourt bientôt la planète entière. Alors qu'Arthur Rimbaud quitte le monde des vivants à seulement 37 ans, Paul Claudel traverse l'Atlantique à bord d'un paquebot. Sur le pont du navire, balayé par les vents et à la merci des vagues, ce sont bien sûr les vers de son poète favori qui l'accompagnent. Ceux-là sont issus du bateau ivre. « La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, dix nuits sans regretter l'œil nu des falots. » Quand il pose enfin le pied à terre, Paul Claudel est à New York. Il a 27 ans. Et son tour du monde commence. Il part à Boston, où il est nommé consul suppléant. Puis à plusieurs milliers de kilomètres en terre d'Orient. Il reste 15 ans en Chine, conquis par le pays des rizières et des pagodes, et sera nommé à Copenhague, Francfort, Rio de Janeiro, Tokyo ou Bruxelles. Au gré des voyages, Paul Claudel rencontre l'amour, le vrai, lui qui n'avait jamais aimé que Dieu et Rimbaud. Et parallèlement à sa carrière de diplomate, ne cesse jamais de nourrir sa passion pour l'écriture. De sa plume féconde naissent des dizaines d'œuvres, des pièces de théâtre, des poèmes et essais, tous empreints d'un lyrisme où son christianisme profond s'exprime. Parmi ses textes les plus célèbres, il y a « Tête d'or » ou « L'annonce faite à Marie ». Tout cela lui vaudra le fauteuil numéro 13 de l'Académie française. Paul Claudel mène une vie riche et trépidante, mais son histoire avec Rimbaud ne s'arrête pas pour autant. En 1911, Arthur Rimbaud est mort et enterré depuis 20 ans lorsque, en poste au consulat de Francfort, Paul Claudel, 43 ans, reçoit une lettre qui contient une demande spéciale. Elle est signée Paterne Berrichon, le beau-frère d'Arthur Rimbaud. Il veut faire ériger un buste du poète dans sa ville natale de Charleville et demande à Paul Claudel de prendre la tête du comité chargé du projet. Quel honneur! Claudel accepte immédiatement et entame un voyage en terre rimbaldienne sur les pas du poète qu'il aime tant. Après un pèlerinage à Charleville, Claudel se rend à Roche, un village situé au cœur des Ardennes. C'est là que se trouve la ferme familiale dans laquelle Rimbaud a passé une partie de sa jeunesse. Dans sa quête, Paul Claudel dort même dans la chambre que le jeune poète occupait au moment de la rédaction d'Une saison en enfer. La même année, on édite enfin la première version complète des œuvres d'Arthur Rimbaud. Et là encore, c'est Paul Claudel qui en signe la préface. Non sans angoisse de ne pas être à la hauteur de son maître à penser. Avec Isabelle Rimbaud, la sœur du poète et son époux, Paterne Berrichon, Claudel élude le versant anticlérical de l'œuvre de Rimbaud, comme son poète sulfureux, un cœur sous une soutane. Ensemble, ils construisent le mythe rimbaldien. Tout au long de sa vie, Paul Claudel voue un culte quasi religieux au poète de Charleville. Sur l'autel de son idole, une photographie trône en bonne place. C'est celle prise par le photographe Étienne Carjat en 1871. Sur ce cliché iconique, on reconnaît le visage juvénile d'Arthur Rimbaud. Paul Verlaine le décrit ainsi : une paire d'yeux perdus, des narines hardies, un menton accidenté et une superbe tignasse. De cette photo, il n'existe que de très rares copies, mais Paul Claudel réussit à mettre la main sur l'une d'elles. Un après-midi de février 1955, Paul Claudel, 86 ans, est tranquillement installé chez lui, un livre entre les mains, quand soudain une douleur intense lui transperce la poitrine. Le lendemain, à l'aube, il rend son dernier souffle. Sa dernière lecture est signée Henri Mondor. Son titre, Rimbaud ou le génie impatient. Le poète l'aura vraiment accompagné jusqu'au bout.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Paul Claudel, nous sommes avec l'auteur qui lui consacre une nouvelle biographie. Bonjour Claude Pérez.
Bonjour.
Bonjour Claude Pérez, vous êtes professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille et vous venez en effet de publier Paul Claudel, Je suis le contradictoire aux éditions du CERF. En quoi Paul Claudel était-il un être contradictoire ?
Il était beaucoup de personnes à la fois et forcément ces différentes personnes ne s'entendaient pas toujours entre elles. Mais lorsqu'il dit « je suis le contradictoire », il veut dire d'abord, je crois, qu'il est en contradiction avec son époque. Et ça d'abord à cause de sa conversion, à cause de sa foi catholique. Il est un croyant très convaincu dans une époque qui s'éloigne du catholicisme. Et ce n'est pas tous les jours facile. Il s'est converti juste au moment où le gouvernement républicain laïcise la société française. Et donc il est complètement en contradiction avec l'époque. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais je pense que c'est dans cette contradiction qu'il trouve une bonne partie de sa force. On pourrait dire, il a séjourné longtemps au Japon, qu'il est comme les judokas, qui utilisent l'énergie de l'adversaire pour trouver leur propre énergie à eux.
Vous l'écrivez, Paul Claudel a été poète, prosateur, dramaturge, globetrotteur, professionnel de la politique, catholique aussi. Lequel de ces costumes lui allait le mieux, finalement, d'après vous ?
Moi, je crois qu'ils lui vont tous. Il est tout ça à la fois, et on pourrait encore dire diplomate, économiste, moine manqué, père de famille nombreuse, mari infidèle, metteur en scène. C'est cette multiplicité qui rend le personnage passionnant. Il faut énormément d'énergie pour faire tout ça. De son vivant, Claudel, c'était le nom d'une marque de carburateur. Et c'est une coïncidence qui me paraît sonner extrêmement juste. Claudel, ça carbure. Lui, il parlait en plaisantant de son conseil d'administration intérieure, dans lequel tous les personnages, dont chacun était une partie de lui-même, avaient beaucoup de mal à s'entendre et se crêpaient le chignon constamment.
Dans la biographie que vous lui consacrez, vous expliquez que le premier biographe de Paul Claudel, c'est Paul Claudel lui-même. Est-ce qu'il a pu construire un récit enjolivé de sa vie ?
Je ne dirais pas enjolivé. Il disait lui-même qu'il avait une mémoire transformante. Je pense que Claudel, c'était quelqu'un qui ne s'est pas énormément préoccupé de ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking, savoir que telle chose s'est passée tel jour, à telle heure, à tel endroit. Ce qui l'intéresse, c'est que les événements aient du sens et qu'ils prennent valeur de symbole. Par exemple, il était né un jeudi. Mais ça, c'est juste le hasard, le jeudi. Ça lui plaisait pas énormément, ça l'intéressait pas beaucoup. Donc il préférait dire qu'il était né un dimanche, à l'heure de la grand-messe, parce que ça prenait valeur de symbole. On n'est pas non plus tout à fait sûr que le récit de la conversion, tel que Claudel l'a relaté, soit absolument véridique jusque dans les détails. Mais quelle scène, quel symbole ? Notre-Dame, le jour de Noël, etc. C'est un dramaturge dans l'âme. Quand il raconte sa vie, il en fait un drame.
Sur l'influence de Rimbaud, il a pu en rajouter, ou en tout cas enjoliver aussi, d'après vous ?
Non. Je crois que la rencontre avec Rimbaud, c'est vraiment fondamental. Mmh. C'est vraiment un bouleversement. Il dit que sans la rencontre avec Rimbaud, il n'aurait été rien du tout. Mmh. Il s'est reconnu dans ses mots, il s'est reconnu aussi dans sa vie. Ce sont des violents, tous les deux. Ils peuvent être très, très raffinés, mais ils sont durs aussi, ils ne sont pas caressants. Et puis, ils ont des choses en commun. Du moins, c'est comme ça que Claudel voit les choses. Ce n'est pas des Parisiens. Mmh. C'est des gens qui viennent de la province, sont des ruraux, des campagnes de l'Est. Mmh. Ils ont tous les deux un accent, un très fort accent. On peut entendre des petits bouts de films sur Internet, on entend sa voix, et on voit qu'il a gardé cet accent qui était celui de sa famille, celui de sa sœur.
Alors, l'une des grandes révélations qui émaille la vie de Claudel, c'est sa découverte d'Arthur Rimbaud. Stéphane le racontait dans le récit, Paul Claudel a contribué à développer un mythe autour de la figure de Rimbaud, le mythe rimbaldien. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement ?
Alors, le mythe de Rimbaud, c'est le titre d'un très très gros livre qui a été écrit il y a longtemps par un professeur qui s'appelait Etiamble, qui passe en revue les différentes interprétations qu'on a pu donner de Rimbaud. Et en fait, toutes les interprétations, d'après Etiamble, contribuent à créer ce mythe. Claudel n'est pas le seul responsable. Il est cité, mais c'est pas lui tout seul. Tous ceux, en fait, qui ont parlé de Rimbaud auraient contribué à ce mythe. Mais je ne sais pas si on peut trouver un vrai Rimbaud ou qu'il connaît. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est de savoir si Rimbaud nous sert aujourd'hui à quelque chose et à quoi.
Vous dites que Paul Claudel est un catholique intransigeant qui va à la messe tous les jours. Mais comment est-ce qu'il a pu composer avec les éléments, disons, sulfureux et pas très catholiques de la vie de Rimbaud ? Je pense notamment à sa relation avec Verlaine ou ses excès d'alcool, par exemple.
Vous savez, d'abord, l'alcool, Claudel lui-même ne crachait pas dessus. Paul Morand raconte que lui et Claudel ont vidé à deux une bouteille de Calvados une nuit à New York. Il est resté 6 ans ambassadeur à Washington. C'était l'époque de la Prohibition et il y avait une chose dont il avait horreur, c'était les dîners arrosés d'eau froide qu'on l'obligeait à avaler. Mais pour les éléments sulfureux auxquels vous faites allusion, il a considéré que ce n'était pas ça qui était important. Ce qui compte, dit Claudel, c'est qu'avec Rimbaud, c'est l'enfance qui parle directement. Mmh. Et puis aussi, Rimbaud est un être humain qui expose son malheur et son espérance. Et il dit « Moi, je l'ai cru sur parole, j'ai eu confiance en lui ». C'est cette longue crise que Claudel a vécue quand il est arrivé à Paris au début des années 80. C'est sa saison en enfer à lui. Mmh. Et là, il s'est reconnu de nouveau dans les mots et dans l'expérience.
Oui, mais avouez que c'est pas banal que l'origine de la foi de Paul Claudel, ce soit dans l'exemple en quelque sorte de Rimbaud, qui en général n'est pas donné en exemple sur le plan de d'une vie christique,
vous
voyez ?
Oui, non, mais ça, vous avez absolument raison. Et il faut encore se représenter que Rimbaud, en 1880 ou en 1930, était beaucoup plus sulfureux qu'il ne l'est aujourd'hui. Par exemple, il y a un écrivain qui s'appelle Maurice Barrès qui voulait écrire un article sur Claudel. Et quand il a appris que Claudel admirait Rimbaud, il a envoyé promener son projet d'article. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui est le plus important au lieu de Claudel. Et d'ailleurs, lui-même n'était pas un enfant de Marie. Hein. J'ai cité Paul Morand tout à l'heure, il disait « Chez Claudel comme chez Proust, on se sentait tout près du diable ».
Stéphane le racontait dans son récit, Paul Claudel a aussi mené une carrière de diplomate qui l'a amené à parcourir la planète. Étudier sa carrière, c'est se plonger dans les grands événements du début du siècle. Quelles ont été les grandes étapes de son action diplomatique ? On apprend beaucoup de choses dans votre livre.
Il a parcouru en effet la planète, comme vous le dites. Il a commencé par ses journées en Chine autour de 1900. Ensuite, il était en Allemagne au moment de la déclaration de guerre de 14 et il a failli être lynché par la foule quand il a quitté Hambourg. Ensuite, il est parti en Italie, puis il est parti au Brésil, où il avait comme rôle, sa mission, c'était de récupérer des capitaux que certaines banques françaises avaient prêtés de manière un petit peu imprudente. En 1919, on l'a envoyé au Danemark, et là, son travail, c'était de superviser, en quelque sorte, des services de renseignement qui informaient le Quai d'Orsay sur la révolution russe et la situation allemande. Il est parti au Japon. Il était au Japon au moment de l'épouvantable tremblement de terre qui a entièrement détruit Tokyo en 1923. Et puis, il était aux États-Unis en 1929, c'est-à-dire au moment de la grande crise économique. Et il a du reste averti le Quai d'Orsay quelques mois à l'avance que c'était une situation extrêmement, extrêmement dangereuse. Mmh. Je montre dans mon livre qu'il est resté en contact avec le président Roosevelt, mmh, même après sa retraite, et qu'il a essayé de faire ce qu'il pouvait pour sauver la paix.
Parallèlement à sa carrière de diplomate, Paul Claudel est un auteur extrêmement prolifique. Comment est-ce qu'on peut définir son œuvre et son style, à votre avis ?
Alors, c'est très difficile de donner une définition parce qu'effectivement, il est extrêmement divers. Il a écrit des poèmes en vers, des poèmes en prose, des pièces de théâtre, des essais, des récits journalistiques. Au Japon, il a écrit des haïkus, donc des poèmes très très courts, qui s'appellent « 100 phrases pour éventail ». Et puis c'est un prosateur exceptionnel, qui a une langue superbe, avec, c'est un inventeur d'aphorismes. Hein, par exemple, il y a celui-ci, il dit « Dans tout homme vivant, il y a une femme incluse ». Et puis j'aime bien aussi celle-ci, c'était sa devise en quelque sorte. « Votre idée du bonheur, réponse, donner son plein
». Son œuvre, selon vous, mériterait d'être redécouverte aujourd'hui. Je ne sais pas si on l'enseigne toujours, nous, de notre temps.
Vous, de votre temps,
on lisait
oui,
encore.
Alors moi, durant mes études, j'ai peu rencontré Paul Claudel.
Mais ça nous est arrivé. Par quoi faudrait commencer et qu'est-ce qu'on peut suggérer aux plus jeunes qui nous écoutent, s'il y en a?
Alors, je dirais d'abord, on peut leur suggérer d'aller au théâtre, parce que son théâtre est régulièrement joué à Paris, ou même à Avignon. Mmh. On a joué, par exemple, l'immense soulier de satin.
Oui, oui. Et Sacha Guitry disait, heureusement qu'il n'y a pas la paire.
Oui, ça commençait à 9h du soir, oui, et ça se finit le lendemain matin vers 6h du matin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie d'essayer, ils peuvent commencer peut-être alors, par les haïkus japonais dont j'ai parlé tout à l'heure, ou bien il y a un autre livre sur le Japon, qui s'appelle « L'oiseau noir dans le soleil levant », où il y a justement un récit du tremblement de terre et de la destruction de Tokyo. Mmh.
Chez les Claudel, on a aussi retenu le nom de Camille, la sœur aînée de Paul. Quelle relation ils entretenaient ? Vous le rappelez, il l'a abandonnée pendant 30 ans dans un asile quand même.
Oui, alors Camille est très importante pour son frère. Ils ont été très proches dans leur jeunesse. Elle est devenue la maîtresse de Rodin très jeune, et puis les choses ont mal tourné. Rodin a refusé de l'épouser. Ils se sont séparés quand elle avait une trentaine d'années. Petit à petit, elle s'est enfoncée dans la psychose. Elle ne mangeait plus par crainte d'être empoisonnée. Ses voisins se plaignaient. Elle envoyait des lettres délirantes, remplies d'excréments. Et puis... quand elle a eu environ 50 ans, sa famille l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique. Alors, c'est Paul qui a largement payé la pension, mais il s'est beaucoup reproché de ne pas avoir assez fait pour elle, de l'avoir abandonnée. Mais on peut rappeler tout de même que c'est lui qui est à l'origine de la première rétrospective Camille Claudel, qui a eu lieu au musée Rodin en 1951. On ne peut donc pas du tout dire qu'il ait essayé d'étouffer son souvenir.
En tout cas, votre biographie est passionnante. Merci beaucoup, Claude Pérez. Je rappelle le titre, justement, de votre ouvrage que vous venez de publier, Paul Claudel, « Je suis le contradictoire », qui est disponible aux éditions du CERF. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui n'ont pas toujours bonne presse. C'est Clémentine Portier-Kaldenbach. Oui, aujourd'hui Clémentine, puisqu'on parle des fans de Rimbaud, vous nous parlez de celle qui ne semblait pas du tout fascinée par lui, c'est sa mère, Vitaly Kuif.
Oui, c'est sa mère, mais c'est surtout son père. Est-ce que vous avez la moindre idée de qui était le père de Rimbaud, Frédéric Rimbaud? Que faisait-il dans la vie?
Il n'était pas poète, en tout cas.
Il était marchand, il était négociant.
Non. Et c'était pourtant un homme plein de surprises. Il était militaire de carrière.
Ah voilà, oui.
Ancien de la conquête d'Algérie, de la guerre de Crimée, de la campagne d'Italie. Et c'était à la fois un baroudeur et un fin lettré. Il a été, Frédéric Rimbaud, auteur d'une traduction du Coran, auteur d'une grammaire arabe, Frédéric Rimbaud. Absolument.
Mais qui ne goûtait pas la poésie
mais
de son fils.
Quand, alors, il est parti avant, si vous voulez. Quand Vitaly Kuif l'épouse, il est capitaine de garnison à Mézières. Mais donc, c'est surtout un père absent. Il a conçu chacun de ses 5 enfants entre 2 permissions. Il ne passe que quelques semaines par an chez lui. après la naissance en 1860 de sa fille.
En général, quand on est en garnison, les épouses.
Alors lui, il est plutôt. Non, parce qu'il n'est pas. En fait, il n'est pas en garnison. Oui. Guerre de Crimée, guerre d'Algérie, vous emmenez pas Bobonne et les enfants derrière. Hein, vous partez.
Une autre époque, Stéphane. Hein, oui, on se battait vraiment à l'époque. Hein.
C'est autre chose que maintenant.
Enfin, lui, de toute façon, Frédéric Rimbaud, à partir du moment où naît en 1860 son dernier enfant, sa fille cadette Isabelle, il abandonne définitivement sa famille. Et Vitaly Kuif se retrouve donc seul avec quatre bouches à nourrir. Arthur, à cette époque-là, a 6 ans. Donc, évidemment, comme on peut s'y attendre, dans son œuvre à venir, son père sera complètement absent. Et c'est seul Vitaly qui occupe la place, peut-être même trop de place, si l'on en juge par les biographies qui ont été consacrées à Vitaly. L'enfant chéri de sa maman, pour l'amour d'un fils, tout sauf ma mère. Vous voyez, c'est un des bouquins sur Vitaly Kuif. Donc, qui est cette Vitaly? Elle est née en 1825, morte en 1907. Elle a été, dès son plus jeune âge, marquée par le malheur. Elle était la fille d'un laboureur prospère du village de Roche, dans les Ardennes. Elle perd sa mère très jeune, elle perd son père trop tôt. Et surtout, comme son mari la quitte, elle se trouve condamnée à l'impécuniosité, à la marginalité, parce qu'elle n'a plus de statut. Elle n'est pas veuve. Son mari est en vie. Elle n'est pas divorcée. Elle n'a plus aucun statut. Elle reste mariée. Donc, elle est une sorte de... Elle est une paumée, un peu comme une fille mère avec 4 enfants.
Mais elle vit de quoi, alors ?
Bah, elle vit de quoi ? Elle a quand même une toute petite rente qui lui vient de son père. Elle touchera un peu plus tard un peu d'argent qui sera débloqué après de sombres affaires familiales et sa situation financière s'améliorera. Mais au début, c'est très difficile pour elle. Alors oui, elle n'est pas souriante, elle n'est pas causante, elle n'est pas avenante. C'est un genre
elle est aimante pour ses enfants ?
Ben, plus ou moins, si vous voulez. On ne sait pas manifester l'amour dans ce genre de famille. Elle, c'est une mère courage isolée du monde par toutes les charges liées à ses enfants. Alors elle tente de garder la tête haute, de dissimuler sa pauvreté. Elle élève ses enfants à la dure, mais elle se saigne aux quatre veines pour qu'ils mangent à leur faim, pour qu'ils soient présentables. Il faut qu'ils soient exemplaires s'ils veulent avoir une chance de s'en sortir. Il faut qu'ils lisent la Bible, que cela leur plaise ou non. Donc elle surveille de près leur lecture. Vous savez, il y a une anecdote célèbre, elle écrit au professeur de Rimbaud, d'Arthur, en lui disant que c'est honteux de lui faire lire Les Misérables, que c'est une lecture qui n'est pas du tout adaptée. Pour ses enfants, il faut qu'elle reste forte, qu'elle serre les dents, rester digne, rester droite. Et Rimbaud la décrit en disant elle se tenait trop debout dans la prairie. Oui, elle est droite tout le temps, elle a une certaine rigidité. Aucun relâchement possible. C'est la phrase que je vous citais tout à l'heure. Elle est aussi inflexible que 75 administrations à casquette de plomb. La phrase est de Rimbaud. Et dans un texte intitulé Les poètes de 7 ans, Rimbaud se remémore et met en scène cette relation complexe entre sa mère et lui. La première strophe plante le décor et la mère, fermant le livre du devoir, probablement la Bible, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Elle est tout à fait consciente du fait qu'il a une très vive intelligence hors du commun. Donc à la fois elle fonde des espoirs sur lui, mais elle l'élève quand même à la dure. Et donc lui est rebelle à son autorité, on le sait, il fugue à répétition. Mais finalement, cette mère autoritaire, conservatrice que la vie a endurcie, n'a-t-elle pas eu par sa dureté même sa part dans la vocation poétique de se révolter d'Arthur ? Sans Vitaly, y aurait-il eu un Arthur Rimbaud ? C'est en tout cas les termes
dans lesquels... C'est sûr qu'il ne serait pas né, oui, sans elle.
Ah bah, il ne serait pas né, c'est sûr, mais sa part dans sa vocation poétique est certaine. Proche, il se déchire. Éloigné, il se manque. Mais l'amour ne se dit pas dans cette famille où l'on parle peu. Et Arthur finit toujours par lui revenir. Ça, cette phrase-là est d'Arthur aussi. Il revient toujours à sa mère comme un évadé qui a soif de son bagne. C'est Vitaly qui, en 1873, avance les fonds pour la première édition d'Une saison en enfer. Quand Arthur se retrouve seul, malade, hospitalisé à Londres, il la réclame, elle l'y rejoint. Jamais elle ne cessera de correspondre avec lui. Jamais elle ne cessera de l'aider financièrement selon ses modestes moyens. Et quand il sera... au fond du désespoir, quand viendra la fin, c'est elle, encore elle, toujours elle, l'ultime recours, la mère Rimbe, il l'appelait aussi Mother, aimante et rigide, qui sera là à ses côtés jusqu'au bout.
Magnifique, c'est bouleversant. Merci Clémentine.
Mais il est mort de quoi, Rimbaud ? Je ne comprends pas cette histoire de genou. On ne meurt pas de genoux.
Septicémie, je pense.
Ah,
infection, je pense que c'est, je crois que c'est ça.
Infection généralisée, c'est terrible. Les éliminations, c'est... On a tous lu les illuminations, Stéphane, à l'école.
Et là, vous parlez des éliminations.
Oui.
Exactement. Des illuminations aux éliminations. Vous savez où nous allons maintenant. C'est le quiz dans un instant.
À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
En matière de déstabilisation psychologique, vous le savez, Stéphane Bern est redoutable. Depuis quelque temps, il tente ainsi, photomontage à l'appui, de faire croire que Clémentine Portier-Kaltenbach est la sœur jumelle de Nana Mouskouri. À tel point que Clémentine est désormais obligée de signer ses autographes « Amitié Nana ».
Bravo Stéphane, vous êtes fier de vous ?
Opportunité vous est offerte de vous venger. Jouons à Bern to be alive. Notre célèbre quiz où il va falloir aujourd'hui allier connaissances historiques et rapidité, et ce, pas seulement sur la question simple. Je vous l'annonce, c'est une petite spécificité aujourd'hui. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Je vous défie sur votre terrain. Question antonomase. Jean de Liège est la personne à la fin du 19e siècle à qui l'on doit l'apparition du Liège tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vrai ou faux ?
Je ne crois pas. Non, je ne crois pas.
Qui est ce Jean de Liège ? Vous semblez le savoir, Stéphane. Confusément, mais vous semblez le savoir.
Un seigneur Brabançon, non ? Rien à voir avec le Liège.
Mmh, oui, c'est sans doute de la ville de Liège. Lutiche en allemand, mais non.
On a des petites...
Oui, ça vient petites... comme ça. Non, ça n'a rien à voir avec le chêne Liège.
Rien à voir, c'est faux, donc.
Oui.
Vous avez... gagné !
Vous avez parfaitement raison. On a retrouvé des objets faits de liège, tels qu'on le connaît aujourd'hui, en 3000 avant Jésus-Christ, en Chine, mais aussi en Égypte, en Perse et en Babylone. Quant à Jean de Liège, eh bien, c'est le premier cas recensé d'enfant sauvage. Au XVIIe siècle, à 5 ans, un jeune garçon s'enfuit de chez lui à cause des guerres de religion. Il est capturé à 21 ans dans la forêt près de Liège. Il avait perdu la capacité de parler, mais jouissait d'un odorat très développé. Il n'avait donc pas de sang bleu, Stéphane. C'était pas Jean de Liège, c'est juste qu'il était dans la forêt de Liège. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Si vous avez le syndrome de Chuck Cunningham, ça consiste à ne pas pouvoir s'empêcher de répéter, même à voix très basse, tout ce qu'on vous dit. Chuck Cunningham était un prêtre anglican du XVIIe siècle. Vrai ou faux ?
En tout cas, c'est une drôle d'affection que j'ai déjà observée chez des gens. Ça, le fait de répéter... Vous n'avez jamais vu ça, Stéphane ? Quelqu'un qui répète votre dernière phrase ou la fin de votre phrase ?
Non.
Ou qui le, quasiment enfant, le dit en même temps que vous ?
À part un enfant très relou.
Non, non, moi j'ai déjà observé ça. Donc écoutez, comme
vous fréquentez, Clément ?
Bah, des gens très, très divers. Vous devriez essayer, je vous assure, vous verrez.
Oui,
c'est... Il n'y a pas que des douairières en perlousée et des rois du Laos dans la vie. Hein. Bon, alors, du coup, je réponds oui.
Vous avez...
Eh bien... Vous avez même tout faux. Tout ce que j'ai dit était faux. Le syndrome Chuck Cunningham, c'est très rigolo. Écoutez bien, c'est très récent. C'est quand, dans une série télé, un personnage pourtant important disparaît sans raison. Ainsi, le fils Cunningham dans Happy Days, qui disparaît à la deuxième saison sans que ça soit expliqué à aucun moment. Quelques années plus tard, son père dira même qu'il a deux fils, alors qu'au début de la série, les fans le savent, il en avait trois. Le syndrome Chuck Cunningham. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Alors attention, c'est la nouveauté aujourd'hui. Une question chronométrée.
Ah non, mais arrêtez. C'est...
Donc, concentration maximale. Je demande toute votre attention, Stéphane. Une fois la question posée, je vais compter 10 secondes. Plutôt un chronomètre qui va compter pour moi. Si à la fin de ce temps imparti, vous ne m'avez pas donné les 4 noms que je vous demande dans l'ordre, vous aurez perdu. Est-ce que vous êtes prêt, Stéphane ?
Allez-y, je ne sais pas de quoi vous me parlez.
Donnez-moi dans l'ordre, j'insiste, dans l'ordre, les 4 maires de Paris.
Les 4 maires ? Mais comment vous l'écrivez ?
M-A-I-R-E !
Non mais il y a une maire de... Non, des
les 4 maires...
Chirac, Tibéri, Delanoë, Hidalgo.
Chirac, ah oui, Tibéri, elle l'a dit en 4 secondes. Le point va à votre adversaire.
Mais j'ai pas compris la question.
Vous ne comprenez pas la question. Yes. C'est votre problème, Stéphane. Moi, je suis là pour distribuer les points.
Moi, il y a des mers à Paris. Alors, donc, je me disais la mer Méditerranée. La mer... elle n'arrive pas jusqu'à Paris. Je n'ai pas compris. Il n'y a qu'une mère à Paris, c'est Anne Hidalgo pour le moment.
Bien sûr, c'est Anne Hidalgo, mère à tous. Non, en fait, la question était formulée ainsi parce qu'il n'y a pas de mère stricto sensu avant 1977.
Ça, je le savais. La question était mal formulée, si je puis me permettre.
La question était formulée de manière que ce ne soit pas trop facile.
Oui, il y a eu des
mères
bien avant. Il y a eu Étienne Marcel, il y a eu des mères sous la Révolution française, il y a eu des tas de mères.
Non, non, je réfute la question.
Ah non, moi je trouve la question très bien. Et d'ailleurs, j'ai pris votre point, Stéphane.
Exactement. Donc nous sommes à un partout. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Oui, Clémentine. Les seules femmes heureuses sur Terre sont celles à qui nulle caresse ne manque. Êtes-vous d'accord avec Guy de Maupassant ? Là n'est pas la question. Ma question c'est, quand Maupassant est né, est-ce que la sauce béarnaise existait ?
Oui.
Ah, ça n'a pas fait un pli ?
Oui. J'espère que Maupassant, qui était un peu dépressif, a eu l'occasion de manger une bonne entrecôte béarnaise. Sinon, je comprends qu'il ait été au fond du trou. Donc oui, je dis Maupassant adorait la béarnaise.
Vous dites oui.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse, Clémentine. Elle a été créée par hasard, la béarnaise, en 1837, par le chef parisien Collinet, après avoir raté une émulsion d'échalotes. Je crois qu'Olivier Pouls nous l'avait déjà raconté. Maupassant, lui, est né en 1850. À ce stade du jeu, c'est clair, Clémentine l'a emporté, sauf si la régie me signalait comme ça opportunément que, en fait, Stéphane, la question était mal formulée, la question 3, et que donc nous sommes à égalité. Et la question 5 va vous départager. C'est Neil Armstrong qui a pris la toute première photo depuis la Lune. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que techniquement, la toute première photo est particulière. Pourquoi ? Trois propositions. Elle était floue et inexploitable, mais bon, c'était la première. On voyait un sac poubelle sur la photo, où les trois quarts de la photo sont gâchés à cause du gant de Neil Armstrong.
Trois.
C'est le gant qu'on voit sur la photo. C'est une mauvaise réponse.
Deux.
C'est une victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est la photo d'un sac poubelle. Ah ouais, Neil Armstrong, il était un bon astronaute, mais un mauvais photographe.
Qui n'est sans doute pas un sac poubelle, mais un sac stercoraire, je suppose, parce qu'on n'a pas de déchets autres.
On n'a pas de déchets sur la Lune.
Alors écoutez, 20 juillet 1969, en tout cas, Armstrong sort du module lunaire, pose le pied, dit la phrase culte, puis Aldrin et lui décident de nettoyer leur habitacle et notamment vider les détritus accumulés. Bref, ils descendent les poubelles. La première photo est celle d'un sac rempli de leur déjection.
Oh bah, c'est bien ce que j'ai dit, un sac stercoraire, mais le mot vous avez probablement échappé.
Ben, c'est un sac dans lequel on met le produit. Bref,
on a compris.
C'est une très belle victoire, Clémentine. Vous êtes fière de vous,
bravo.
Surtout que j'ai essayé de vous la subtiliser.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie d'un esprit littéraire qui est fasciné par Rimbaud, n'est-ce pas, Mathieu ?
Oh, Rimbaud, ô rage, ô désespoir, ô vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que
Mathieu,
pour cette infamie ?
Mathieu, ça c'est Corneille.
Ah oui.
Aujourd'hui, on réunit trois personnages qui, eux, étaient vraiment fascinés par Rimbaud.
C'est mieux.
Après Paul Claudel, je vous raconte le destin d'un autre fan célèbre qui a repris ses textes en chanson, Léo Ferré. Et ça, c'est extra.
C'est extra. C'est extra.
Et quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait 99% vrai d'une fan encore parmi nous.
Elle est l'icône du rock, Stéphane.
Nana Mouskouri.
Non, l'autre, Patti Smith. Patti Smith, elle aussi, elle voit un culte à Rimbaud. Et peut-être plus encore, vous allez voir, l'occasion de revenir sur le destin tortueux de celle qu'on considère tous comme la marraine du mouvement punk.
Sans oublier nos punks et nous. David Castello-Lopez qui nous raconte les origines. Alors, si j'ai bien compris, c'est.
Lancez-vous
la rotation des disques qui passent à la radio.
C'est en fait, depuis quand est-ce qu'on met beaucoup les mêmes chansons à la radio ?
Avec nous, Olivier Pouls, alors qui a sorti ses flasques de rhum maintenant.
Ouais, je vais vous raconter comment un alcool très peu qualitatif et voué aux esclaves et aux marins de basse classe est devenu aujourd'hui quelque chose d'extrêmement tendance et de hautement qualitatif, l'histoire du rhum.
Enfin, il y aura très peu de poésie, vous le savez, dans l'ultime séquence de cette émission, qui relève plus souvent de la boucherie que de la poésie. Ce sera la lutte finale de tous contre tous pour définir, et c'est important, qui dans cette équipe est le moins nul en histoire. Mais pour l'heure, partons à la rencontre de notre deuxième personnage, fan de Rimbaud. Il est devenu un grand chanteur avec le temps.
Avec le temps va, tout s'en va.
Poète visionnaire, rappeur avant l'heure, c'est pourtant le passé qui l'a inspiré, et un poète en particulier, Rimbaud. Stéphane Bern nous raconte Léo Ferré.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
L'histoire entre Léo Ferré et Arthur Rimbaud commence dans les années 1930 entre les murs froids d'un pensionnat catholique. Nous sommes à Bordighera, dans le nord de l'Italie. Le jeune Léo, 16 ans, est enfermé à l'internat depuis ses 9 ans et navré de savoir qu'il devrait y vivre son adolescence entière. Mais au milieu des soutanes noires, Léo n'est pas dans son élément. Il cultive même un esprit très rebelle. Tous les jours, pendant la messe, il attend que le prêtre ait le dos tourné et les bras tendus vers les cieux pour sortir un livre caché sous son pull. Et alors que ses camarades, ces agneaux flatteurs de robe noire, comme il les appelle, chantent en chœur l'Alléluia et prennent l'hostie, lui se plonge secrètement dans des lectures bien trop subversives pour les frères. Léo Ferré lit Voltaire. Il s'imprègne des vers de Baudelaire, Mallarmé, Verlaine et bien sûr de la poésie de Rimbaud. Ce jeune poète fait figure d'exemple pour l'esprit libre et solitaire de Ferré. 60 ans plus tôt, Rimbaud, 16 ans à peine, se révoltait contre l'ordre dominant à l'aide de sa plume aiguisée. Comme chez Ferré, tout en lui ne faisait que bouillir.
À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés.
Les vers et les mots, Léo Ferré en tombe amoureux dès l'adolescence et c'est tout aussi jeune qu'il veut associer la prose à sa première passion, la musique. Les notes et les partitions, il les a rencontrées enfant. Avant l'enfer du pensionnat, il chantait dans une chorale de son rocher monégasque natal et apprenait le solfège. À 18 ans, enfin libre, Ferré rêve d'intégrer le conservatoire de musique, mais ses velléités artistiques sont bien vite réfrénées par son père. Pour s'assurer un avenir digne de ce nom, on l'envoie plutôt à Sciences Po. Alors la musique attendra, mais juste un peu, car Léo a toujours cette petite note qui lui trotte dans la tête. Il écrit des chansons, se rêve en Charles Trenet, son idole. Un jour, un élan de culot le pousse à aborder Edith Piaf qui l'encourage à tenter sa chance. Et voilà Ferré, son accent du sud et son piano qui se produisent dans les cabarets parisiens de la rive gauche. Léo Ferré peine à se construire une réputation, mais le temps de la galère est aussi celui de l'amour. En 1950, il rencontre Madeleine Rabreau, qui devient l'autre bout de lui-même. Ensemble, ils vivent dans une petite chambre, rue Royer-Collard, entre le Panthéon et le Jardin du Luxembourg. D'après Ferré, cette même chambre abritait les amours tempétueuses d'Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, près d'un siècle plus tôt. Mais l'amour qui unit Léo et Madeleine ne se termine pas à coups de revolver, comme ce fut le cas des poètes maudits. Non, c'est une passion qui dure, et avec elle, un succès qui grandit. À la fin des années 50, Ferré vit ses premières grandes scènes parisiennes. D'abord à l'Olympia, à l'Alhambra, puis au mythique Bobino. Tout cela à guichet fermé.
Poète, vos papiers. Poète, vos papiers.
Dans chacun de ses textes, l'artiste Ferré semble revendiquer haut et fort. La poésie est faite pour être clamée. Il veut en faire des chansons qu'on le mette à fond dans les jukebox, des chansons qui restent en tête et que l'on sifflote dans la rue. Les poèmes qu'il écrit sont faits pour être chantés. Ainsi, Poète, vos papiers est à la fois un 33 tours et un recueil publié en 1957. Mais Ferré s'attaque aussi aux plumes célèbres. Il met en musique des textes de Guillaume Apollinaire, comme Le Pont Mirabeau ou La Chanson du Mal-Aimé, consacre un disque entier à Charles Baudelaire, intitulé, comme le recueil de poésie, Les Fleurs du Mal, et chante ensuite Louis Aragon dans l'album Les Chansons d'Aragon en 1961.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants.
Mais le chef-d'œuvre arrive en mai 1964, quand Léo Ferré s'attaque aux amants maudits, Verlaine et Rimbaud. C'est l'histoire d'une relation tumultueuse de 2 ans, consommée sur fond d'ivresse et d'absinthe et jamais reconnue par les lois de la société. Mais Verlaine et Rimbaud, c'est aussi le titre d'un album de Ferré, enregistré en seulement 4 jours, le tout premier double album studio de l'histoire des musiques populaires. On y découvre 10 poèmes de Rimbaud chantés par Ferré. L'année de la sortie du disque, il a 48 ans, C'est un artiste reconnu et il met à la portée de tous les mots puissants de ses frères poètes, comme ceux de Ma Bohème.
Je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal.
J'allais Ferré s'accompagne au piano et récite une nouvelle fois les vers du prodige de Charleville.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs. Tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce.
Quelques mois après la sortie d'une saison en enfer, on attend Léo Ferré au Grand Rex pour l'écouter prêter sa voix au cercle de poètes disparus qu'il a constitué, mais il n'apparaîtra plus. Une maladie le ronge et l'emporte très vite. Un matin de juillet en 1993, l'âme du chanteur populaire s'en va rejoindre ses idoles. Dans les papiers qu'il a griffonnés, on retrouve ces mots. Rimbaud, c'est le verbe clair. C'est la marée impatiente qui semble faite pour toi quand tu la prends dans les yeux. Rimbaud, c'est le sourire du large, la passion des mots au fond de ta gorge. Crie, 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 et tu lui ressembleras.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Léo Ferré, nous sommes Stéphane avec l'écrivain Robert Belleret. Bonjour Robert.
Bonjour.
Bonjour Robert Belleret, vous êtes l'auteur d'une biographie de référence, Léo Ferré, une vie d'artiste disponible chez Actes Sud. Dans l'avant-propos, vous écrivez que ce livre est l'expression d'une gratitude à l'égard de Ferré, l'artiste de votre vie. Qu'est-ce que sa musique vous a apporté ?
Il y a sa musique, il y a aussi ses mots, il y a peut-être d'abord sa voix vibrante, puissante, poignante. Ça a été pour moi une révélation. La première fois que je l'ai écouté, j'allais avoir 15 ans. J'étais un lycéen très médiocre. Puis grâce à lui, j'ai découvert la grande chanson, qui peut être en art majeur à l'occasion. Et puis la poésie, et puis la littérature, le livre de poche, le cinéma, la cinémathèque. Bref, grâce à Léo Ferré, j'ai échappé à la mélasse ambiante de l'époque et à la barbarie lycéenne. Alors oui, j'ai envie de dire Léo Gracias.
Mais visiblement, à vous entendre, il a réussi son pari qui était de populariser la poésie en mettant en chanson les grands auteurs.
Ah oui, il l'a réussi au-delà de toute espérance. Pour moi, c'est miraculeux. Alors, il a voulu populariser les poèmes, les offrir au plus grand nombre, ce qui est déjà une tâche formidable, mais surtout leur apporter un souffle de vie à ces poésies. Parce que souvent, ces poèmes magiques dormaient dans des recueils un peu poussiéreux. Vous l'avez dit, pour lui, la poésie n'était pas faite pour être lue, mais pour être dite, pour être clamée, pour être proférée. Avec de la musique, évidemment, c'est encore mieux.
Et alors, Robert Belleret, Stéphane le racontait dans le récit, les premiers succès de Ferré sur scène, ça remonte à la fin des années 50. Vous racontez l'avoir vu à Bobino, à l'Alhambra. Qu'est-ce que ça procurait d'écouter Ferré interpréter ses chansons sur scène? Parce que là, rien qu'en l'écoutant, avec toutes les années de recul,
on a
les poils qui se dressent, et là, ouais. Le voir sur scène, ça devait être quelque chose de dingue.
C'était quelque chose de fou, oui. Moi, j'ai eu la chance de voir à peu près tous les plus grands de la chanson, et il fait partie de ces personnages comme Brel, comme Piaf, comme Montand, qui apportent un plus énorme. Le 3 novembre 1961, précisément, la grande première de l'Alhambra, où moi, petit lycéen, encore une fois, j'ai eu la chance d'assister. Et alors, Ferré est arrivé. Il n'avait pas un physique très exaltant pour un jeune homme. Il était un peu massif, il avait le front dégarni, mais il y avait une présence, un magnétisme, et ça, c'est irremplaçable. Il a chanté, je me souviens, les chansons de son premier disque, 25 cm chez Barclay, Paname, Joli Môme, Merde à Vauban, Les Poètes, etc. Mais aussi Sanctu Satan, 20 ans, qui était magnifique. La vie moderne, qui était visionnaire, et puis le sublime Est-ce ainsi que les hommes vivent d'Aragon. Je trouvais dans ce tour de chant du lyrisme, mais c'était aussi grinçant, c'est poétique, il y avait de la révolte, il y avait de la provocation, de l'incandescence. C'était un moment tout à fait à part qui a, encore une fois, je l'avoue, changé ma vie. Et cet enchantement, il n'est pas retombé, parce qu'après je l'ai suivi, évidemment, et je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer, mais je l'ai vu à Bobino plein de fois, je l'ai vu à la Mutualité, la salle de la Mutualité, où chaque année il passait pour le gala du Monde Libertaire. Alors là, c'était un registre plus militant, les chansons évidemment anarchistes, et avec une salle qui était souvent survoltée, des drapeaux rouges, des drapeaux noirs. Et je l'ai même vu le soir du 10 mai 1968, la fameuse nuit des barricades, où le Quartier Latin était plus qu'en effervescence, en révolte. Bon, c'était des moments aussi là extrêmement forts. Moi, je vibrais, j'avais la chair de poing. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable.
Léo Ferré était fasciné depuis très jeune par la poésie de Rimbaud. Il se reconnaissait, j'imagine, dans les mots du jeune poète. Vous écrivez qu'en matière de sensibilité, Arthur Rimbaud était sans doute le poète dont Ferré était le plus proche.
Oui, je crois. crois ça. Je crois que c'est la sensibilité d'écorcher vif, de passionner, d'exalter, d'illuminer. Ça ne pouvait que toucher Ferré. Il était en phase avec ce roi Arthur, même si humainement, il aurait peut-être été plus proche de Verlaine. Mmh. Mais sur le plan de l'art, du verbe, de l'écriture, Rimbaud, ça lui parlait. Et il y avait une sorte de cousinage entre ces deux voyants, j'allais dire, qu'on ressent bien quand on écoute des chansons de Ferré, des chansons-poèmes de Ferré comme « La mémoire et la mer », qui auraient pu être signées par Rimbaud. Oui.
Justement, Robert, on a beaucoup parlé de Rimbaud, mais Ferré lui-même était poète. Il a signé des centaines de textes, vous venez d'en citer quelques-uns. Qu'est-ce qui définit le style poétique de Léo Ferré ? C'est quoi les thèmes récurrents de ses chansons ?
Ah, les thèmes, il a abordé à peu près tous les thèmes, l'amour, l'anarchie, la révolte, mais aussi des trucs, il a écrit des chansons très drôles. Et les chansons sont venues progressivement, puisqu'au départ, il aurait voulu être musicien, on l'a dit, mais il est devenu poète presque malgré lui, et contrairement à Brassens ou à Brel, par exemple, il acceptait l'étiquette poète, il se vivait quand même comme un poète. Il était aussi à l'aise dans l'Alexandrin que dans le Vers libre, enfin, c'est quelqu'un qui ne ressemble à personne, quoi, qui est resté comme ça tout au long de sa vie et de sa carrière.
Alors, à votre avis, j'imagine le choix est difficile, mais quelle est la plus belle interprétation que Léo Ferré ait faite de Rimbaud pour vous ?
Ah, je serais tenté de dire les poètes de 7 ans, dont on a entendu un extrait, les assis, parce que le vocabulaire est d'une richesse éblouissante, mais je pense aussi au bateau ivre. Le bateau ivre, Ferré l'a mis en musique en 1989.
On va écouter un extrait.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les haleurs. Des bourges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur.
Ben voilà, merci beaucoup Robert Bellerey. Je rappelle le titre de la biographie que vous avez consacrée à Léo Ferré. Léo Ferré, une vie d'artiste, disponible chez Actes Sud. Je précise que vous avez signé la biographie d'autres monuments de la chanson française comme Édith Piaf, Jean Ferrat et Charles Aznavour, qui sont toutes disponibles aux éditions de l'Archipel. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages qui étaient fascinés par Rimbaud. Après Paul Claudel et Léo Ferré, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une artiste qui va plus loin. Depuis l'âge de 16 ans, elle est persuadée d'être en couple avec Rimbaud.
Oui, c'est une belle histoire, Stéphane, qui nous prouve que l'amour, à condition qu'il soit un peu aidé par la drogue, est plus fort que la mort. Je vous présente aujourd'hui la femme de Rimbaud, Patti Smith. Patti Smith, qui est à Stéphane Bern ce que la graine de chia est à Olivier Poul, c'est-à-dire quelque chose qui est très très loin de son univers.
A priori.
Mais nous allons voir que peut-être, une fois en 92, entre deux nanas mouscouris, Stéphane a écouté par inadvertance une chanson de Patti Smith.
Un moment très pénible dans mon existence.
Patti Smith, qui est effectivement un Anamouskouri, ce que l'Antéchrist est à Jésus. La pionnière du punk, la papesse du rock'n'roll, chanteuse, écrivaine, militante et poète, fan inconditionnel donc de notre Rimbaud. Précision importante, certains goujats dans l'équipe m'ayant demandé avant l'émission si elle était toujours en vie, Patti Smith va bien, hein, elle a 74 ans, même si sur les dernières photos, comment dire...
Elle semble au bord de la mort.
Non, fatiguée Stéphane, fatiguée, mais c'est normal, elle a tant vécu. Patti Smith naît le 30 décembre 1946 à Chicago. Le début de sa vie ressemble plus à un roman de Zola qu'un poème de Rimbaud. À 2 ans et demi, elle chope la tuberculose, puis la scarlatine, la varicelle et la grippe asiatique. Son milieu social, modeste, très modeste. Son père est un ancien danseur de claquettes devenu employé dans une usine. Sa mère est serveuse. Très vite, Patti nourrit des envies d'ailleurs. J'ai grandi dans le sud du New Jersey où les gens n'allaient jamais nulle part. Incise personnelle, je confirme, j'ai moi-même passé 2 étés en séjour linguistique à Clayton, New Jersey, et quand j'ai demandé à ma famille d'accueil s'ils allaient souvent à New York, situé pour info à 2 heures de route, ils m'ont répondu « New York ? Oh, we've never been there oh, !» Ok, mais... faute de pouvoir voyager, dès l'âge de 7 ans, Patti Smith fugue, pour de bon, ou à travers l'écriture, des poèmes déjà, notez-moi aussi, le problème c'est qu'à 7 ans, j'avais d'autres passions qui parasitaient ma création poétique, Dragon Ball Z, les Tortues Ninja, Olivier Tom, tout ça laisse des traces, Patti, elle, son cerveau n'a pas été lessivé par le Club Dorothée, elle se passionne donc pour le cubisme, se révolte contre les inégalités raciales, et à l'âge de 16 ans, alors que j'ai le coup de foot pour Jerry Halliwell des Spice Girls, Elle tombe amoureuse de Rimbaud. Elle rentre chez un bouquiniste de Philadelphie par hasard. Elle vole un bouquin au pif. C'est un exemplaire des Illuminations. Quel aurait été son destin si ça avait été 100 ans de légende du Tour de France par Gérard Rolls? On ne le saura jamais. Ça, c'est probablement une autre vie. En tout cas, c'est le coup de foudre. Elle découvre en Rimbaud, je cite, un compatriote, un frère et même un amant secret. Dans le portrait de Rimbaud sur la couverture, Patty remarque tout de suite un détail.
Il a un beau paquet.
Non, David, non, un beau regard. Son regard hautain sur la couverture des Illuminations accrocha le mien. La lecture d'une saison en enfer lui inspire même un poème. J'y parle de baiser avec Rimbaud.
Ah, c'est osé, hein ?
Oui, David, ne soyez pas choqués, vous allez voir, Patty Smith est plutôt quelqu'un qui ose. En parallèle de sa romance avec Rimbaud, Patty devient institutrice, mais se fait renvoyer après être tombée enceinte à 18 ans. Alors là, on ouvre le tome 2 de Germinal. Elle confie l'enfant à l'adoption, accepte un boulot à l'usine, où sa relation avec Rimbaud ne passe pas. En fait, le fait même qu'elle lise Rimbaud ne passe pas. Un jour, les autres ouvrières la coincent dans les toilettes, menaçant de la dénoncer. La dénoncer de quoi, me direz-vous ? Eh bien, de lire un livre écrit en langue étrangère. Ce qui ne laissait planer aucun doute à l'époque, c'était forcément une communiste. Et oui, heureusement, à force d'économiser, en 1969, Patty Smith réalise son rêve. Avec sa sœur, elle découvre la France. Et Paris, où elle joue dans la rue pour quelques pièces et un jambon beurre. Nous sommes descendus dans un hôtel miteux de Montmartre. Nous avons sillonné la ville pour retrouver les lieux où Gérard de Nerval avait dormi et où Baudelaire était enterré. Après ça, évidemment impossible de refoutre les pieds dans le New Jersey, elle s'installe donc à New York. Où elle rencontre le deuxième homme de sa vie après Rimbaud. Lui a l'avantage d'être vivant, le photographe Robert Mapplethorpe. J'arrive pas à le dire sans postillonner, peut-être David pouvait le dire mieux que moi. Ouais, voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Qui signera la couverture de plusieurs de ses albums. Ils ne se quitteront plus jusqu'en 1989 à la mort du photographe qui était à la fois son ami, son mentor, et le confident de Patty. C'est à ses côtés qu'elle deviendra une légende du rock puis du punk, frayant avec Janis Joplin et Jimi Hendrix, un ami qui lui filera d'ailleurs de bons conseils.
Il peut mourir d'avoir bu trop d'eau.
C'est en évitant au maximum l'eau qu'elle écrira ses plus grands succès. Because of the night, ou encore People have the power. Patty Smith traverse les années 70 avec une fougue créative incroyable. Je peux être inspiré par un plat d'œuf au jambon, dit-elle à West France. Et alors, poule saucisse, c'est pas la peine de frimer. Mais voilà Stéphane, contrairement à vous, Patty n'est pas très star system. À la fin des années 70, elle se retire de la vie médiatique pour se consacrer aux tournées, aux lectures poétiques sur scène et à Rimbaud, bien sûr. En 2016, son obsession prend corps puisqu'elle achète son ancienne bâtisse, une maison insalubre au bord de la route, entourée d'herbes mortes, dans les Ardennes, à Roche, à Meaux, une quarantaine de kilomètres au sud de Charleville-Mézières. Stéphane, je sais que je vous ai perdu hein, cette description, ces mots, ah bord de route,
j'adore
Ardennes,
les Ardennes.
À Meaux, Charleville-Mézières.
Ah oui, je le connais très bien.
Ah, c'est vous aimez
oui,
bien,
bien.
D'accord.
Sûr.
Alors, faut dire que c'est un endroit que Rimbaud lui-même qualifie dans son œuvre de triste trou. Et pourtant, vous le savez certainement, il est des trous qui rendent heureux. Car c'est dans le grenier de cette ancienne ferme que le poète a écrit Une saison en enfer. On en a parlé tout à l'heure. Et ça, pour Patty, ça vaut toutes les junior suites du Georges V. Elle aimerait en faire une résidence d'artiste, une sorte de Villa Médicis spartiate. Il y aurait une petite douche, un poêle, un bureau, des livres. Juste ce dont un écrivain a besoin, aussi pur que possible. Une quête de simplicité qui transparaît dans une autre idée de Patty. Elle affirme vouloir s'installer à Paris, près du Café de Flore, à Saint-Germain-des-Prés. Elle dit « Je me contenterai d'une petite chambre avec une jolie fenêtre et beaucoup de lumière, un lit et un bureau. Je pourrai descendre tous les jours pour écrire au café. Ça sera la belle vie. » Alors, si je peux me permettre, Patty, visiblement, ça fait un bail que t'as pas consulté le site meilleursagents.com parce qu'une petite chambre lumineuse à Saint-Germain-des-Prés, hein, on ne s'en contente pas aujourd'hui. À 18 000 le mètre, c'est une simplicité qui est réservée aux plus riches des fans de Rimbaud. Mais bon, on lui pardonne. Quand t'es fan de poésie, t'es rarement calé en immobilier. Et vous l'aurez compris, Patty Smith est très fan de poésie. Un peu comme notre camarade Olivier Pouls qui, entre deux tartines de rillettes, aime nous faire partager ses trouvailles poétiques. Comme l'autre jour, quand vous nous parliez, David, du syndrome de Péto, et que soudain, Olivier, le Verlaine du plat pays, s'est exclamé.
Je vais vous dire que votre Péto, c'est un sacré mec. Hein.
Ouais.
C'est pétoman.
Oh, chaque époque a les poètes qu'elle mérite.
Merci Mathieu. Et pour en savoir plus encore sur Patty Smith et Arthur Rimbaud, je vous recommande, chers auditeurs, la lecture de Patty Smith et Arthur Rimbaud, Une constellation intime, signée par Pierre Lemarchand, aux éditions Le Mot et le Reste.
Et pour en savoir plus sur les poèmes d'Olivier Pouls, il y a évidemment la biographie référence. Ah non, ça on s'en fout pas.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour et au revoir à Rimbaud également.
Votre ami Patty Smith, on peut le dire, a consommé pas mal d'alcool
oui,
durant,
et
durant
pas
sa vie.
Que, pas que.
Non, pas que, mais entre autres. Oui. Et là, on a justement Olivier Pouls nous parle aujourd'hui du rhum.
Ouais, on a sûrement bu. Hein.
Oui, enfin, certainement, oui. Mais d'où vient le rhum ?
Dans la bouteille direct.
Ouais. Mais d'où vient-il ? Et puis surtout, quelle est son histoire assez incroyable. D'ailleurs, je vous raconte tout ça. Et puis, je vous donne une petite recette de petit ponche, tiens.
Oui, un fond de... Même quand vous faites un gâteau au chocolat.
Ah, ça change
vous
tout.
Vous mettez un fond de rhum.
Ça parfume, c'est incroyable.
Ça parfume incroyablement.
Et si vous faites un goûter d'anniversaire pour les enfants, mettez aussi un peu de rhum. Après, ils sont beaucoup
dans
plus calmes, ça passe beaucoup mieux. David Castello-Lopez, d'abord, va nous expliquer les origines de quelque chose d'un peu compliqué, mais passionnant néanmoins, la rotation des disques à la radio.
Alors moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé ma carrière à la radio TSF Jazz.
C'était très classe.
Où je faisais des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le jazz, puisque je présentais les flash infos qu'il y avait au début de chaque heure, un peu comme Emily Dez sur Europe 1, qui commence chacune de ses émissions. Mais quand je présentais pas les flash, j'écoutais TSF Jazz et j'ai remarqué quand même qu'il y avait plein de fois les mêmes morceaux qui passaient. Il y avait d'une part un certain nombre de standards du jazz, mais dans les nouveautés, c'était souvent les mêmes aussi. C'était Elisabeth Contomanu, Jamie Cullum, Roman, le guitariste manouche. Et ça m'a donné envie de savoir, est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors c'est assez difficile d'avoir une réponse définitive à ça pour la France, mais on peut avoir des réponses pour les États-Unis. Et comme la France, en matière de showbiz, c'est un peu la petite bitch des États-Unis, eh bien, il est fort probable que du point de vue de la rotation des disques à la radio, la France soit également la petite bitch des États-Unis. Alors en gros, aux États-Unis, jusqu'aux années 40, la règle, c'était on ne passe jamais deux fois le même morceau à la radio en 24 heures.
En 24 heures ?
Ouais, ça paraît dingue, mais apparemment c'était le cas. Et puis, au début des années 50, il y a deux messieurs qui sont intervenus, Bill Stewart et Todd Storz. Todd et Bill, c'était respectivement le programmateur et l'un des principaux techniciens d'une station qui s'appelait KOWH. Vous savez que tous les noms de stations de radio aux États-Unis commencent par K ou W, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme ça. Et KOWH, c'était une des stations de la petite ville d'Omaha, dans le Nebraska, celle qui a donné son nom à la plage du débarquement où tout le monde se fait zigouiller dans le soldat Ryan, Omaha. Et un jour, Todd et Bill, ils étaient dans un restaurant qui était en face des locaux de leur radio, et ils attendaient la petite amie de Todd, qui était serveuse dans ce restaurant. Et ils ont remarqué un truc, dans ce restaurant, comme dans la plupart des restaurants à l'époque, il y avait un jukebox, et les clients du restaurant, ils choisissaient donc eux-mêmes les morceaux qu'ils voulaient écouter. Et comme toujours, il y avait des morceaux qui étaient plus souvent choisis que les autres. Et ce que Todd et Bill ont remarqué, c'est que quand le restaurant fermait et que les serveuses restaient pour nettoyer, elles remettaient sur le jukebox les chansons qui avaient été le plus jouées pendant la journée. Autrement dit, elles écoutaient les mêmes morceaux toute la journée et quand elles étaient enfin libres d'écouter ce qu'elles voulaient, et ben elles écoutaient encore les mêmes. Et Todd et Bill, ça les a inspirés. Et ils ont décidé de ne passer sur leur radio que les 40 titres qui avaient le plus de succès à un instant T. Et ça a cartonné. Leurs audiences, elles ont complètement explosé. Et en fait, ils ont créé un nouveau type de radio, enfin un nouveau à l'époque, qu'on appelle encore aujourd'hui les radios de top 40 aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a plein. En France, je ne m'y connais pas assez, mais je crois que Énergie tombe dans cette catégorie de radio du top 40. En tout cas, c'est très probablement de ce moment que date l'idée que c'est une bonne chose d'un point de vue commercial de passer super souvent les mêmes choses à la radio. Alors pour finir, j'ai quelque chose à vous offrir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous offres tout le temps des trucs? Eh ben, c'est parce que, un, je suis un type généreux, voilà, c'est comme ça. Et deux, parce que sans ça, ma chronique aurait été un petit peu courte. Donc, je vous offre aujourd'hui un mini-quiz sur les fun facts des succès de la musique. Alors, c'est difficile d'avoir des données précises sur le nombre de diffusions radio, donc je vais vous faire un petit quiz sur les plus grands succès de la musique sur YouTube. Alors, première question, à votre avis, quelle est la chanson la plus écoutée de l'histoire de l'humanité sur YouTube ?
De l'histoire de l'humanité ?
Non, pas du tout.
Non, ça doit être une débilité.
Sur YouTube, ah oui, c'est le
coréen, c'est le coréen, là.
Non, c'est, vous chauffez.
Gangnam Style.
C'est pas votre truc de chat de l'autre jour, là, ou je sais plus quoi.
Non. Personne n'a la bonne réponse, zéro bonne réponse. La chanson la plus écoutée de l'histoire de l'humanité sur YouTube, c'est ça.
Alors, ils connaissent, ils sont plus jeunes que nous, qu'est-ce que c'est ?
Personne dans le studio ne connaît. Baby Shark Dance, 9 600 000 000
9 milliards, c'est pas possible, on n'est pas 9 milliards.
Eh bien, il y a des gens qui l'ont écouté plusieurs fois. C'est une chanson pour enfants coréenne qui est sortie en 2020 et qui, en quelques mois, est devenue la chanson la plus écoutée de l'histoire de l'humanité. Non, j'ai écouté
en 2004.
Non, pas du tout, pas du tout.
Vous vous rendez compte qu'on a quand même parlé de Léo Ferré dans cette émission. On passe de Léo Ferré à Baby Shark.
Baby Shark Dance.
Mais c'est une honte. Voilà. C'est une honte, David. J'ai honte pour l'humanité.
Deuxième chanson la plus vue, Despacito, bien sûr, sur YouTube.
Despacito dont j'avais dit dans un pilote qu'on avait enregistré à l'époque sur Europe 1, parce qu'on avait eu la chanson en juin.
Oui.
Et dans le pilote, j'avais dit ça, ça ne marchera jamais. J'avais dit ça, ça a été entendu. Toujours une écrue, tout le temps, Stéphane, j'ai dit ça, jamais ça peut marcher. Parce
la
qu'on l'a déjà
totale. Deuxième question, est-ce que vous savez quelle est la chanson chantée en français la plus vue de l'histoire sur YouTube ?
Petit Papa Noël.
Non.
Ah, c'est Edith Piaf ou pas ?
Non plus.
C'est pas Johnny.
Il est question de papa également.
Papa chanteur, papa. Non. Papa.
Je m'attendais pas à ce que vous soyez si mauvais.
Pas tout de suite les insultes. Ouais. Attendez. Non, c'est très
récent.
Il y a récent,
papa
ça.
Dedans.
C'est récent, c'est vieux.
C'est Dion,
relativement
c'est
récent. Non. Allez, 3, 2, 1. C'est Papa Outé de Stromae.
Ça, c'est le plus écouté au monde.
Oui, 852 millions de vues.
Ah oui.
Chanson chantée en français. Devant Jaja de Aya Nakamura.
Mais devant, je possède de la thune ?
Infiniment devant. Oh, mais vraiment,
pas loin,
dans des proportions infinies. Et enfin, est-ce que vous savez quelle est la chronique d'Olivier Pouls qui a eu le plus de succès sur YouTube ?
C'est la salade César.
Et non, c'est la quiche Lorraine.
La quiche Lorraine.
À l'époque où vous étiez dans l'équipe Les Sauvages, plus de 2500 vues.
Oh,
et on compte encore.
Toute la famille Pouls. Et toute une partie de la Belgique.
Et voilà.
On retrouve les origines de David Cassel-Lopez en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'homme aux 2500 vues sur YouTube avec sa chronique sur la quiche Lorraine. Record à battre aujourd'hui, j'invite tous les auditeurs, vous en parlez autour de vous, vous dites, on écoute aujourd'hui en replay sur YouTube la chronique d'Olivier Pouls.
Et allez voir, revoir aussi c'est sur la quiche Lorraine.
Revoir sur la quiche Lorraine aussi, et essayer d'exploser les scores au-delà de 2500 vues. Aujourd'hui, c'est donc du rhum dont vous nous parlez,
mon
cher Olivier.
Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est à Christophe Colomb. En réalité, que l'on doit en quelque sorte l'origine du rhum. Alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est lui qui a eu l'idée d'introduire la canne à sucre à Cuba en 1493. La canne à sucre n'est pas du tout originaire de Cuba et des Caraïbes. Elle est originaire d'Asie en un premier temps. Elle s'est transportée vers l'Europe et c'est de l'Europe vers les Caraïbes que Christophe Colomb l'a emmenée. Alors, pour ce qui s'agit du rhum, de cette célèbre boisson, cap donc sur les Caraïbes, on remonte 300 ans en arrière à l'époque de l'esclavagisme et des pirates. Et il faut savoir que ce produit, je vous en ai apporté d'ailleurs deux petits flacons, vous allez pouvoir humer ou déguster si vous le voulez.
Bon, moi alors, je vais juste humer ça.
C'est un produit qui est un sous-produit de l'industrie sucrière, puisque les premières mentions de cet alcool de canne à sucre remontent au XVIIe siècle, je vous l'ai dit, sur l'île de la Barbade, dans la mer des Caraïbes. Et il s'agit d'un produit qui est rustique, mal maîtrisé, et qui en fait est la distillation de ce qui reste après avoir raffiné du sucre. Il est consommé essentiellement par les pauvres, il est embarqué à bord des bateaux, les marins en boivent parce que c'est meilleur en fait que de l'eau croupie ou que du vin qui a tendance à tourner.
Moi j'ai goûté à toute petite dose, je confirme, c'est bien meilleur que de l'eau croupie, ça n'a rien à voir.
Oui, absolument, mais je vous le confirme.
Et Dieu sait que vous aimez l'eau croupie.
Dieu sait, j'aime déjà l'eau croupie, déjà quand j'ai très soif, mais alors là, il y a un petit côté caramel, ouais. C'est très très bon.
Alors, il peut être produit à base de jus de canne à sucre, ce qu'on appelle le vesou, ou de mélasse. C'est un jus de canne à sucre qui lui a été raffiné, et ça donne deux types de rhum très différents. Alors, l'un ou l'autre sont ensuite distillés et ensuite élevés. Il y a plusieurs types de rhum. Alors, on va essayer de faire relativement simple. Il y a le rhum traditionnel, qui est donc à base de mélasse. Le rhum agricole, à base de vesou. Le rhum blanc, c'est ce que je vous ai apporté. C'est un rhum qui sort tout juste de l'alambic. Il est autour de 65 degrés à l'origine, mais il peut être ramené un petit peu plus bas.
Mais là, il est à combien,
est à 50 degrés.
Oui, 50, oui.
Et alors, donc, ce rhum-là sert essentiellement à préparer les cocktails, comme les ponches. Vous trouvez du rhum ambré, qui lui a été vieilli dans un fût de chêne, et c'est le fût de chêne qui va donner la couleur au rhum vieilli entre un an et un an et demi. Et puis le summum, le meilleur, c'est le rhum vieux qui lui est élevé au moins 3 ans en fût. Et quand je dis 3 ans, il peut être élevé beaucoup, beaucoup plus longtemps. Vous avez des rhums qui ont passé 40, 50 ou 60 ans en fût. Et c'est cet élevage dans le fût qui va lui apporter sa complexité. Il faut savoir qu'il y a rhum R-H-U-M. Rhum, R-U-M,
ah oui.
Ou même Rhône. Alors, le premier. Alors, la différence, c'est que le Rhône, R-O-N, c'est d'origine espagnole. C'est de la mélasse distillée en continu. Et alors, ça, c'est Cuba, la République dominicaine, la Colombie ou le Venezuela.
le rhum R-U-M est lui d'origine anglaise. Mmh. Et là, on va le trouver en Jamaïque, à la Barbade ou dans les Bermudes. Et puis le rhum français, qui peut d'ailleurs bénéficier d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. On le trouve en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. Et il faut savoir que c'est au XVIIIe siècle qu'apparaissent les premiers rhums français que l'on doit au père Labatte, qui a beaucoup perfectionné les techniques de distillation. Et puis peut-être très rapidement, puisque je vous l'avais promis, la recette du tiponche, très facile à faire. Donc du rhum blanc, comme celui-là, 6 centilitres, 2 centilitres de sucre de canne, et puis un peu de citron vert. On écrase le citron vert, on verse le sucre de canne, on verse le rhum, et on déguste éventuellement avec des glaçons, si on le veut un peu plus frais. Mais normalement, ça se boit comme ça.
Puis nous entrons dans l'hiver bientôt, un bon grog, ça sera pas
et
mal.
Et un rhum arrangé aussi.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, après le rhum, qui va pouvoir flamber ? Ben on va jouer avec l'histoire. Oh. Vous êtes prêts à vous affronter ? C'est la lutte finale.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Vous connaissez le principe, une question pour chacun. En cas d'égalité, ou dans le succès ou dans l'échec, eh bien une dernière question pour vous départager avec un chiffre à donner. Il faudra vous approcher au plus près de la bonne réponse. Olivier, en 1983, c'est la sortie du Retour du Jedi. À l'origine, le titre du film de George Lucas devait être « L'arme du Jedi ». Vrai ou faux ?
Je l'ai vu, je connais bien les films, mais alors de là à être capable de dire ce qu'était le titre prévu à l'origine...
Il y a une véritable histoire derrière.
Oui, j'imagine bien. Mais si vous me posez la question, c'est que forcément c'est vrai. Bah oui.
Non, c'est faux.
C'est ah, il y a une véritable histoire derrière tout ça.
Oui, il y a une vraie histoire. Le vrai titre, à l'origine, devait être La Revanche du Jedi.
Ah,
mais on a trouvé que le Jedi, c'était indigne de lui de vouloir se venger. Et donc on l'a appelé Le Retour du Jedi.
Ah,
et
oui.
Donc c'est la même idée, si vous voulez.
D'accord,
c'est le retour du Jedi, mais il ne revient pas pour se venger. Parce qu'un Jedi ne peut pas se venger, s'il est trop gentil. Alors David, c'est pour vous. Jacques Chirac était fan de sumo. Vous le savez, je parle pas de son chien, je parle du sport. Mais saviez-vous qu'il y a un trophée, la Coupe Jacques Chirac, pour les compétitions de sumo ? C'est vrai ou c'est faux ?
Je pense que c'est faux. Oh non.
Eh oui, cette coupe existe, elle a été créée en 2000. Puis la coupe a disparu une fois que Jacques Chirac n'était plus à l'Élysée. Le président aimait se faire envoyer des cassettes VHS des plus grandes compétitions de sumo. Alors, Mathieu, sur la tablette... Attendez, sur la... Non, parce que si vous avez faux, tout le monde a faux.
Ah,
et donc,
on est tous nuls et on verra qui départage. Est le moins nul, d'accord.
Sur la tablette de la Statue de la Liberté... Est gravée la date du jour de l'indépendance des États-Unis. Et ce, en chiffres romains. C'est vrai ou c'est faux ?
Alors déjà, ça n'a aucun intérêt, mais alors est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Pourquoi en chiffre romain la date d'indépendance est... Non.
Perdu.
Est-ce que c'est vrai ?
Ben oui.
14 juillet 1776 en chiffre romain.
Mais quel est l'intérêt de cette question ?
Et bah
si vous y étiez monté, vous sauriez.
C'est pas vous d'en juger de l'intérêt.
C'est vrai.
Vous avez vu vos questions du quiz ?
C'est vrai. Je viens d'y penser à l'instant.
Alors, vous avez tous les trois perdu, donc la question qui les partage, c'est lui qui est... Le moins nul des trois nuls. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. On estime à 180 tonnes de matériel divers et varié laissés sur la Lune par les différentes missions Apollo. Parmi les objets, on compte des sacs poubelles remplis de l'urine des astronautes. Mais il y a combien de sacs poubelles remplis d'urine des astronautes ? Votre
c'est
réponse,
pas très malin,
Olivier.
J'ai mis zéro.
Zéro ?
Moi,
votre
j'ai mis
réponse
8.
8 ?
30.
30. C'est vous, David, qui gagnez. Il y en avait 96.
96
sacs de pipi.
Mais franchement, ils ne pouvaient pas les verser. Qu'est-ce qu'ils vont laisser des sacs ?
Mais ça vaut avec la...
Mais vous les larguez dans l'espace.
Bah oui.
Mais non, parce que sur sinon, il n'y a pas de gravité. Ou
mais sur la Lune, il y a une petite gravité.
Il y a une petite gravité, c'est vrai. Ça ferait...
La NASA réfléchit à les récupérer. Ils veulent voir si les microbes ont survécu dans les sacs depuis tout ce temps.
Ah, ça a une portée scientifique.
Exactement.
En fait.
Mais il me semblait qu'il n'y avait pas de microbes dans le pipi. Bon, après, ça, c'est une connaissance. Mais oui, c'est assez.
Si vous êtes malade.
C'est aseptique, non ?
Oui,
c'est vrai.
Non. C'est ce qu'on m'a dit, ouais.
Ah oui ?
Donc, ils n'ont pas pensé à ça à la NASA. Heureusement que le bout de ces castanos était là pour leur montrer que leur expérience était débile. Un nouveau numéro. Bravo, David, pour cette belle victoire déjà. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève ainsi. Il était consacré aujourd'hui à ces personnages qui étaient fascinés par Rimbaud, comme moi. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
Mathieu, oui. Je vous attends surtout demain, même endroit, même heure. Hein.
D'accord, bien sûr, ça va, je serai là. Vous avez déjà le programme ?
Oui, demain, ils ont été sacrément déchus de leur sacre. On réunit le roi Charles X, l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, qui a dû les quitter.
Beau programme, je ne suis pas déchu. D'autant que je vous parlerai de Silvio Berlusconi, déchu lui aussi de son poste de sénateur en Italie.
Moi, qui, quand j'entends ce genre de vannes, alors,
alors là, on est parti sur une sorte d'accent espagnol finalement. Oui, on a hésité un peu, puis ça a bifurqué.
Non, mais je devrais faire l'italien.
À demain, les amis.
Moi qui, quand j'entends ce genre de vanne, allez, à demain, Mathieu, à demain, les amis.
À demain, Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.